C'est lundi, retour en début de semaine. Non, je déconne, mais quel plaisir de le réentendre à l'antenne en direct, notre chantre de l'histoire, notre caution crédibilité. Il est professeur au Grand Collège La Sorbonne Saint-Émilie. Raphaël, bonjour.
Bonjour à tous.
Histoire brève, un mercredi.
Oui, il y a plus de saison.
Il y a plus de règles. T'es surtout en vacances en fait.
Oui, aussi. Oui.
De quoi ça cause ?
Ben, nous allons faire la suite de notre série que nous avons entamée il y a de ça quelques mois sur les morts insolites de l'histoire. Aujourd'hui, l'époque moderne.
Raphaël, ça va ?
Oui, ça va.
Toi qui es historien, ça fait écho. Hein.
Oui, ça fait écho, oui. L'histoire des migrations, la Lozère qui est finalement une terre de passage, comme elle a dit, est beaucoup moins enclavée finalement que ce qu'on pouvait le croire au Moyen-Âge notamment.
Histoire brève.
Oui,
histoire brève. Bah allez, si t'es prêt, mon corto, tu sélectionnes le petit bouton, le jingle, et on y va, jingle, histoire brève.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Histoire brève.
Bonjour monsieur de Paris.
Bonjour monsieur Coudert.
Ça y est, j'ai reçu dernièrement une nouvelle convocation de votre part de la façon originale dont vous seul avez le secret. Chers auditeurs, sachez que lorsque monsieur de Paris vous convoque pour l'une de ses émissions, tout un protocole se met en place. Vous recevez d'abord un courrier en recommandé 2 semaines avant votre intervention, écrit en lettres d'or sur un parchemin, un pot de veau de 3 mois, quand la peau est encore tendre et bien blanche pour que le doré des lettrines ressorte bien. Cette même préconvocation est écrite en latin médiéval et commence invariablement par ces mots. In nomine domini nostri, benedictus de Parisis, amen. Je traduis, au nom de notre Seigneur, Benoît de Paris, amen. Puis vient de façon assez sobre et condensée l'heure, la date et le motif de cette préconvocation, toujours en latin. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que tant de gens ne répondent pas à vos invitations. Ne serait-ce pas plus simple de les faire en français ?
J'avoue.
Bon, c'est vrai, c'est moins chic, mais il faut parfois savoir faire des concessions.
Et puis j'étale ma culture comme ça, tu vois.
Tout à fait, vous avez raison. Si vous ne répondez pas dans la journée à cette préconvocation, vous êtes généralement sanctionné par divers biais, comme celui de la gendarmerie, par exemple, qui dresse ainsi des contraventions aux cibles de Monsieur de Paris. Autrement dit, si un jour vous avez reçu un PV sans trop comprendre pourquoi, désormais vous savez. Une fois cette première étape passée, vous recevez une vraie convocation portée à main propre par un livreur nain en Vespa qui traverse nos contrées été comme hiver vêtu en garde suisse du Vatican. Alors là, j'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi ce coursier devait être un nain. Et jamais le même en plus. Monsieur de Paris, une explication peut-être ?
Absolument aucune.
Oh, bon c'est, cette fois vous recevez une lettre cachetée en fait, fermée par un seau qui comporte à Sénestre une bière belge et à Dextre une bouteille de vin de Gabali qui surplombe votre devise « Fluctuat nec mergitur », il flotte et ne coule pas.
Qui est entre autres la devise de
pas
Paris.
De doute. Voilà. Mais pas de doute, c'est vos armoiries puisque vous faites référence à vos origines, à votre terre d'adoption et à la devise de Paris, tout à fait. Vous décachetez le sésame et vous découvrez alors la liste des exigences de la station qui vous permettra de passer en direct aux côtés de Monseigneur de Paris. Au bas du courrier, vous trouvez le rappel de la date et de l'heure de votre convocation écrite en lettres de sang. Après analyse, rassurez-vous, chers auditeurs, ce n'est pas le sang de Monsieur de Paris qui est ici utilisé, mais celui de Cortot. C'est pour ça qu'il est si pâle, le pauvre garçon. Enfin, le coursier repart en chantant un célèbre opéra de Wagner et en marche arrière, toujours sur sa Vespa. Il est dit que le bougre ne doit jamais vous tourner le dos. Une fois ce protocole terminé, vous savez que vous êtes attendu à Radio Bartas. Si vous avez reçu les mêmes lettres, un conseil, gardez-les, il paraît qu'un marché s'ouvre sur eBay. Bref, sur la dernière lettre que j'ai reçue de vous, il était écrit que je devais vous parler de la suite des morts insolites de l'histoire. Les dernières fois, nous avions parlé de ces grands personnages emportés au firmament de leur vie, par de l'eau croupie ou des linteaux de porte trop basses. Vous aviez d'ailleurs été plutôt brillant, puisque vous aviez répondu à deux questions sur les 3 qui étaient posées, ce qui porte votre total avec l'avant-dernière fois à 2 sur 6, presque la moyenne.
Ouais, bah on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Hein.
Mais je n'attends pas moins. Poursuivons donc nos pérégrinations historiques et ce flirt avec la mort que des rois provoquent en faisant tout et n'importe quoi. Prenons les cas de Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui rencontra la faucheuse, hélas pour lui, en 1519, et celui de ce roi de Suède du XVIIIe siècle, Adolphe Frédéric, mort en 1771. La cause de leur décès est quelque peu similaire et a trait à l'un des 7 péchés capitaux. Mais d'après vous, lequel ?
Peut-être la... j'hésite entre deux. La gourmandise.
Je vous fais des propositions.
Ah.
La paresse. Terrassés par la fatigue après une partie de chasse, ils se sont endormis dans une écurie, se sont morts piétinés par leur propre monture. La gourmandise. Gros mangeurs, ils ont tous les deux succombé à leur grand appétit après un gargantuesque repas. La luxure, Bon, mais là, je vous laisse imaginer la suite. Il est un peu trop tôt pour rentrer à ce point-là dans les détails, même pour vous, monsieur de Paris.
Mais le problème, c'est que vous êtes tellement crédible en prof d'histoire que les trois sont possibles. J'avais pensé à la gourmandise.
À la gourmandise corto, d'accord, avec la gourmandise.
Tu as la gourmandise aussi, ouais.
Gourmandise, oui, il s'agit bien du péché de gourmandise. Question subsidiaire, qu'a mangé avec excès vraisemblablement Maximilien Ier d'Habsbourg, d'après vous? Il a fait une indigestion de champignons. Trois paniers de girolles, c'est bon, mais c'est trop. Une indigestion de melon, qui aurait d'ailleurs aussi causé la mort de son père Frédéric III 26 ans plus tôt. Une indigestion de chute de Bruxelles, comme quoi il y en a qui aiment vraiment ça.
J'adore ça en plus pour le coup. Mais du coup, ça a l'air tellement crédible là, qu'il a étudié son père 26 ans avant. Du coup,
Donc le melon, indigestion de melon.
Je me disais la même chose, ouais.
Mais vous avez raison, vous êtes en forme aujourd'hui.
Je suis en forme.
Oui, c'est le melon qui causa sa mort. En même temps, il est mort au mois de janvier. Voilà ce qui en coûtait à l'époque de manger des fruits hors saison. J'en reviens maintenant à ce roi de Suède.
Engagé en plus aujourd'hui, c'est fou.
J'en reviens maintenant à ce roi de Suède, Adolphe Frédéric, mort en 1771, le jour de Mardi Gras. Il aurait englouti avant d'entamer son jeûne du caviar accompagné d'une soupe aux choux en entrée, puis du homard, du hareng et une choucroute. En dessert, il attendait encore avec impatience un samla, petite brioche fourrée à la crème et à la pâte d'amande, servie à cette époque-là dans une assiette creuse remplie de lait chaud. Les semlor se mangent traditionnellement ce jour-là en Suède. C'était a priori son péché mignon, il en aurait avalé pas moins de 14. Un peu barbouillé, à la fin de ce repas, il se rend dans sa chambre et meurt après un AVC causé par ce repas gargantuesque. Revenons en France, où les morts insolites ne manquent pas. Intéressons-nous maintenant à Henri II, roi de France de 1547 à 1559. Ce dernier succomba au lendemain d'un tournoi donné dans les rues de Paris. Au cours d'une joute qui l'oppose au comte de Montgomery, il est grièvement blessé par la lance de son adversaire, du jour qui dut un poil culpabiliser après coup. Pris en charge par le grand chirurgien de l'époque Ambroise Paré, il est maintenu en vie pendant 10 jours avant de trépasser. Ce dont se félicite d'ailleurs l'équipe médicale étant donné la gravité de ladite meurtrissure. Mais de quelle nature fut cette blessure ? Première proposition, la lance de Montgomery lui transperça la poitrine de part en part au niveau du poumon gauche et il mourut de faim car il ne pouvait plus s'alimenter. La lance de Montgomery lui sectionna la trachée et il survit autant de temps grâce à un valet qui soufflait dans une paille pour lui apporter de l'oxygène jour et nuit pendant 10 jours. La lance de Montgomery éclata sur l'armure de Henri et une écharde passa sous le homme du roi, entra par l'œil et ressortit au niveau de l'oreille. Les médecins et chirurgiens ne purent même pas l'opérer et le malheureux mourut d'atroces souffrances 10 jours plus tard avec un bout de bois toujours planté dans la tête.
Et je sais pas pourquoi j'ai la trachée dans la tête.
La trachée ?
Ouais.
Donc elle passe là et quelqu'un souffle dans la paille pour
le faire. Ouais, je sais pas.
Corto ?
Moi je dirais peut-être la 1, parce que le coup de la trachée du valet qui souffle, ça fait un peu, je sais pas,
ouais,
c'est comédie.
C'est dégueulasse en plus.
Ouais,
c'est vraiment des idées, monsieur de Paris. Non, c'est l'écharde qui rentre dans l'œil, c'est la troisième.
Un petit coup de mou.
L'écharde qui rentre dans l'oreille, qui rentre dans l'œil, pardon, et qui ressort par l'oreille.
Bon. Ça fait mal.
Ça fait très mal. Hein. Je crains que ce soit bien donc cette troisième solution. Je n'ai jamais dit que toutes les réponses seraient drôles. J'ai dit insolite. En tout cas, c'est ce que vous avez demandé sur votre convocation. Insolite. Vous avez insisté sur les termes. Hein. Lettre de sang, surligné. Restons dans ce bon royaume de France et apesantissons-nous sur un cas célèbre, celui de Jean-Baptiste Lully, compositeur du roi de France Louis XIV et qui mourut en 1687 des suites d'une gangrène. La question est, à quoi est due cette gangrène ? Premièrement, alors qu'il jouait un morceau de flûte, un comparse lui tapa dans le dos amicalement. La flûte s'enfonça dans sa gorge et lui entailla méchamment la glotte. La blessure s'infecta et il mourut 2 semaines plus tard.
Vous êtes flippant quand même.
En voulant réaccorder un clavecin, il se pinça méchamment le majeur avec une des cordes. La blessure s'infecta et malgré l'amputation de son doigt, puis de sa main, puis de son bras, rien n'y fait. Et il est mort moins de 2 mois plus tard. Lors d'une répétition, il s'emporta contre ses musiciens et frappa du sol le bâton qui lui servait à battre la mesure. Malheureusement, ce faisant, il s'écrasa un orteil. La blessure s'infecta, mais il refusa l'imputation car il était bon danseur. La gangrène se propagea alors et il mourut 3 mois plus tard.
Allez, à l'instar de Bob Marley, je vais choisir l'orteil.
L'orteil.
Moi, le coup du piano, il me plaît bien.
Pour ton pianiste, hein, c'est sûr.
Et non, c'était bien l'orteil. C'est la troisième solution. Très bien, monsieur de Paris. 3 sur 4, je suis impressionné. Donc, c'était bien la troisième proposition. Pour la petite histoire, cette réputation qui coûta la vie à Lully était l'une de ses répétitions autour du Tédéum, qui devait être chanté peu de temps après par 150 musiciens pour aider le roi à guérir d'une fistule anale. Et voilà, je pense que nous avons là les meilleurs mots pour qualifier et brillamment conclure conclure cette chronique. J'attends donc votre prochaine convocation pour poursuivre notre balade dans les couloirs du temps à la rencontre des morts les plus insolites de l'histoire.
Eh bien, je vous la donne à l'instant. Voici votre convocation en lettres d'or sur la peau de votre 3 mois pour lundi. Ça vous va ?
Oui. Je m'attendais pas à tant d'empressement. Je vais voir ce que je peux faire.
N'empêche que vous êtes vraiment flippant quand même. Il y a des trucs vrais, mais il y a des trucs qui sortent de votre tête. Et ça, c'est flippant. Merci beaucoup, Raphaël.
De rien.